Chapitre 45. La résidence du parc était un petit ensemble d'immeubles anciens, regroupés autour d'un espace vert, dans la banlieue ouest de Paris. Une cité usée, mais propre. Ludivine était têtue, elle avait son idée, et n'en démordrait pas. Pendant que ses collègues de la SR envoyaient toutes les brigades de gendarmerie motorisées sur l'autoroute A4 pour tenter de retrouver le camion de Cyril Capucin, dit la bête, elle remontait la piste de 6 vieux monsieur et 2 vieilles dames. Théoriquement, elle aurait dû travailler en binôme, avec Seignon, particulièrement depuis la mort d'Alex. Aucun gendarme n'était supposé prendre le moindre risque supplémentaire. Mais Ludivine n'en prenait aucun, à éplucher des vieux dossiers et à rencontrer des personnes âgées. De toute façon, Seignon avait pris sa journée pour retrouver sa famille, quelques heures. Et comme leur groupe ne comportait plus que 2 membres, la jeune gendarme n'avait pas voulu emprunter un autre de ses camarades. Il parlait trop. Il ne la connaissait pas assez. Elle avait besoin d'avancer. D'être dans l'action. Ne pas réfléchir à autre chose. Ne pas songer à Alexis. Et se déplacer avec un collègue signifiait parler. Donc, réfléchir. Donc, souffrir. Ben, à la gendarmerie, lui avait donné tout ce qu'il avait trouvé en quelques minutes sur les 9 noms dont elle disposait. Oda Lechamp, éditeur Ferry, était mort. Un vivait au Canada, depuis plus de 30 ans, et un autre était dans le sud de la France, ce qui en laissait déjà 5 à rencontrer. Ludivine s'était présentée au domicile de Caroline Fitch-Gendrier, où elle s'était fait remballer très rapidement. La vieille dame n'était pas en état de recevoir. Et lorsque Ludivine avait évoqué le bois Larry, sa fille lui avait montré la porte. Manifestement, certains d'entre eux connaissaient leurs origines et n'en avaient pas fait un secret. Mais la famille ne souhaitait pas l'évoquer. Ludivine s'arrêta au 3e étage de la résidence du parc et frappa à la porte. Elle regarda sa liste. Classe Boccellini, 68 ans. Retraité de la SNCF. Veuf. Elle n'éprouvait aucune peur. Le mentor était peut-être l'un des noms qu'elle tenait dans la main. Et pourtant, elle ne ressentait rien. Elle avait ciblé ses rencontres. Benjamin lui avait dit au téléphone que les seuls à disposer d'un casier judiciaire étaient Ferry, Brussin, Turin et Rognier, les 2 premiers ayant commis les délits les plus importants, ou les plus nombreux. Des délits anciens, antérieurs à 1980. S'était-il rangé par la suite? Ou était-il devenu beaucoup plus organisé et ne s'était plus fait prendre? Ferry était mort, et Rognier vivait près d'Antibes sur la côte méditerranéenne. Ludivine avait opté pour ne pas approcher Brussin et Turin tant qu'elle n'en saurait pas plus. Par expérience, elle savait qu'on ne devenait pas criminel sur un coup de tête, à part les crises de folie, les crimes passionnels. Mais avec Étoile E, on était loin de tout ça. Il n'était pas devenu le mentor de tueurs en série du jour au lendemain. Il s'était construit peu à peu dans la violence. Il l'avait expérimenté lui-même, durant sa jeunesse, pour être à même de revendiquer sa différence aujourd'hui. D'abord, Ludivine s'était interrogée sur la probabilité que 4 personnes sur 9 disposent d'un casier judiciaire. Cela l'avait étonnée. C'était une statistique beaucoup trop élevée. Puis, elle avait repensé aux circonstances dans lesquelles ces 9 enfants-là avaient grandi. Orphelins, à l'assistance publique, bâtards allemands grandissant en France après le traumatisme de la guerre. Combien de fois avaient-ils été rejetés? Quelles souffrances avaient-ils endurées? Pour peu que leur sinistre origine leur soit connue. Leur adolescence chaotique était compréhensible, et une partie avait facilement sombré dans la délinquance. Si le étoile E, peint en sang, au bois Larry était bien ce que Ludivine croyait, un hommage. Alors le mentor était assurément l'un de ces hommes-là, Brussin, Turin ou Rognier. Benjamin était missionné pour creuser leur dossier en particulier, pendant que sa collègue effectuait sa tournée, dans le but de rassembler des commentaires sur les uns et les autres, et dans l'espoir de resserrer son filet autour du bon suspect. Il n'avait pas de temps à perdre. Elle partageait l'avis de Michaelis. Le mentor n'allait pas s'arrêter là. Après le coup d'éclat de la mine de Wieliczka, en Pologne, elle craignait qu'il veuille faire pire en France. Un visage fripé et fatigué apparut dans l'encadrement de la porte. Cheveux blancs, peau couverte de tanne et froissée comme un costume devenu trop grand, avec le temps, pour ce frêle squelette. Mais le regard bleu demeurait vif, perçant. « Monsieur Boccellini, je suis Ludivine Van Keur, gendarme à la section de recherche de Paris. Est-ce que je peux vous parler un instant ?»«
Est-ce que c'est grave ?»«
Rassurez-vous, je ne viens pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, » corrigea aussitôt la jeune femme, pour ne pas l'effrayer. « Je cherche des renseignements, en fait. »«
À quel sujet ?»«
C'est un peu délicat d'en parler ici, sur le palier. Est-ce que ça vous dérangerait de me faire entrer ?»«
Vous êtes seul ?»
La question étonna la gendarme. « Oui ?»«
Bon. Venez. Vous êtes thé ou café ?»«
Ni l'un ni l'autre, merci. » Las Boccellini referma derrière Ludivine et lui indiqua d'une main le petit salon blanc, pendant qu'il filait dans une cuisine tout en longueur.
« Un jus d'orange, peut-être. J'en ai toujours en réserve pour mes petits-enfants. »
« Non, rien, merci. » L'appartement sentait la cire. Il avait été décoré par une femme. Papier peint blanc, à fleurs rouges et vertes. Napperon omniprésent, bibelots en porcelaine, en cristal, photos de famille un peu partout sur les murs, les guéridons.
« Asseyez-vous !»
commanda Boccellini en revenant avec une assiette de petits gâteaux secs. Ludivine prit place sur un canapé trop moelleux, dans lequel elle s'enfonça. Elle se redressa pour n'être assise que du bout des fesses, sur le bord. « Monsieur Boccellini, je travaille sur une enquête un peu compliquée. Aussi, je vais me contenter de vous poser des questions qui pourront vous paraître étranges, sans trop d'explications. Je vous demande de me répondre en toute franchise. C'est très important. »
« J'ai bien compris. Vous savez, j'ai travaillé pour l'État pendant 37 ans, dont une bonne partie pour les trains. J'ai le sens du devoir, de l'honneur. Je ne mens pas. Mais je voudrais savoir si c'est en rapport avec l'un de mes petits-enfants. »
« Non, rassurez-vous. Est-ce que les noms de Ferry, Turin ou Brussin évoquent quelque chose pour vous ?» La tête du vieil homme se releva instantanément. Il n'arborait plus aucune expression aimable, et Ludivine s'attendit à se faire jeter dehors, une fois encore.
« Pourquoi ? Pourquoi me demandez-vous cela ?»«
Comme je vous le disais, c'est une enquête un peu compliquée. Je ne peux pas entrer dans le détail. Mais est-ce que vous les connaissez ?» Un long sifflement s'échappa des narines de Boccellini quand il inspira, le regard noir.
« Si vous me posez cette question, c'est que vous savez.
L'histoire du Boilary ne vous est pas inconnue ?
Je préfère l'oublier. Ma famille
n'aura pas à le savoir, » le coupa aussitôt la jeune femme pour le mettre à l'aise. « C'est une conversation strictement privée. » Boccellini se fendit d'un sourire poli, sans aucune émotion.
« Ma famille est au courant. » Mais elle ne désire pas qu'on fasse remonter ses vieux souvenirs à la surface.
Je comprends. Cela restera entre nous. Tout ce que je cherche, c'est à savoir si vous fréquentez encore l'une de ces personnes.
Non. Et depuis très longtemps.
Mais vous vous êtes côtoyé à une époque, comprit l'enquêtrice.
Peu. Très peu. J'ai refusé, à vrai dire.
Refusé ? C'est-à-dire ?
C'est ancien, une vieille histoire. Pourquoi vous intéressez-vous à ça ? Ils ont fait quelque chose de mal ?
Vous seriez surpris ? Boccellini prit un instant pour réfléchir.
Non. Je crois que non, en fait.
Quelle est cette histoire ?
Je ne pourrais pas vous en dire grand-chose, j'ai refusé leur proposition. C'était en 1976, je crois, pour la naissance de mon fils. C'est Dieter Ferry qui est venu me trouver. Je ne le connaissais pas. Je ne savais rien de ma naissance. C'est lui qui m'a tout raconté, tout. C'était un personnage étrange, très sûr de lui, très charismatique. Ferry m'a expliqué que j'avais des frères et des sœurs semblables à moi. Et que si moi aussi, je me sentais rejeté, abandonné, différent, je pouvais les rejoindre. Il m'a donné une liste de noms et il m'a proposé de venir les rencontrer.
Vous l'avez fait ?
Après un moment, oui. C'est que Ferry savait se montrer persuasif. Il savait dans quel orphelinat j'avais grandi, quelle famille d'accueil j'avais eue, Il connaissait toute ma vie. Il est le seul qui a été capable, en 32 ans, de m'expliquer pourquoi j'avais un prénom allemand, même si j'avais déjà forcément envisagé le pire. Alors oui, j'y suis allé.
Le vieil homme tourna la tête pour observer les rideaux blancs, comme si sa mémoire s'y trouvait suspendue, quelque part, parmi les plis.
Dieter avait bien fait les choses. Il avait trouvé une salle, et il nous a tous présentés les uns aux autres. Il nous a longuement parlé, avec un discours chaleureux, rassurant. Il s'est occupé de nous et a beaucoup insisté pour nous rappeler que notre famille était là, sous nos yeux. C'est pour ça que nous nous sommes rendus à toutes ces rencontres.
Il y en a eu plusieurs ?
Oh oui, je ne me souviens plus très bien, mais peut-être 10 ou 12. Ma femme a fini par ne pas apprécier que je m'y rende. Elle trouvait que ça me mettait des mauvaises idées dans le crâne, d'autant que les conjoints n'étaient pas admis. Dieter voulait, dans un premier temps, que ce soit uniquement le rendez-vous des enfants parfaits. Vous savez, je crois qu'au fond, cette terrible expression, c'est Dieter qui l'a déterrée du passé pour la rendre publique.
Il avait une intention derrière tout ça, vous croyez ?
Oh oui, et il n'a pas tardé à la partager. Il a d'abord insisté, à chaque réunion, sur notre différence avec les autres. Et là-dessus, il n'avait pas tort. Vous savez, quand vous venez de l'assistance publique, vous ne vous sentez pas comme tout le monde. Mais quand votre prénom est allemand et votre nom de famille français, que vous êtes né en 1944 en région parisienne, je peux vous garantir que la terre entière vous fait sentir que vous êtes différent. C'est comme ça qu'il en a convaincu quelques-uns.
Convaincu de quoi ?
De le suivre. Dieter Ferry voulait construire une communauté pour nous, les enfants parfaits. Un lieu où nous serions entre nous, sans regard extérieur, sans haine. Au début, le projet semblait aussi loufoque qu'il était excitant. Puis, ça s'est peu à peu concrétisé. Il était très motivé. Il ne vivait que pour ça.
Vous savez pourquoi il y tenait tant ?
Je présume qu'il avait beaucoup souffert de sa condition. Quoi qu'il en soit, un certain nombre ont accepté de le suivre, et ils sont partis s'installer à la campagne.
Pas vous ?
Non, pas moi. Ma femme n'aurait jamais voulu.
Et vous savez ce qu'ils sont devenus tous ?
Non. Après leur départ, j'ai coupé les ponts. Enfin, eux surtout, ils se sont enfermés sur eux-mêmes.
Et vous ne savez plus rien de ce qu'ils sont devenus.
J'ai revu Egon Turin, 3 ou 4 ans plus tard. Il était revenu en région parisienne. Il avait quitté la communauté. Je crois que l'expérience l'avait passablement déçu.
Ce Turin, vous l'avez vu souvent ?
Oui, pendant un moment. Il était très agréable. Nous nous fréquentions, juste nous, pour discuter de nos vies, un peu comme des demi-frères.
Vous pensez qu'il pourrait être devenu dangereux ?
Egon ? Non, pas le moins du monde, c'était une crème. La gentillesse incarnée.
Et il était plutôt éloigné de Dieter Ferry ?
Il était en rogne contre lui, oui. Il n'a jamais plus voulu en entendre parler. Si c'est à Ferry que vous vous intéressez, c'est avec Egon que vous devriez vous entretenir.
Vous m'accompagneriez ? Boccellini leva les mains au ciel.
Je ne l'ai plus revu depuis au moins 20 ans. La vie, vous savez. Nous nous sommes perdus de vue peu à peu. Mais attendez, je dois encore avoir son numéro. Enfin, s'il n'a pas changé.
Le retraité se leva pour fouiller dans un vieux calepin à spirale qui se désagrégeait de tous côtés. Il humecta son index et tourna les pages méticuleusement.
Ah, voilà. Je suis désolé, je crois que ça ne va pas vous être d'une très grande aide. C'est encore un numéro ancien. De l'époque où il n'y avait pas les indicatifs. Je suis navré.
Ludivine secoua son portable devant elle. Si je le trouve moi-même, vous voulez bien que nous l'appelions ensemble ? Il parlera plus facilement avec vous. La jeune femme sentait qu'elle était sur la bonne piste. Toutefois, contacter Egon Turin directement, c'était prendre le risque de tout foutre en l'air s'il s'avérait qu'il était le mentor. Après tout, il était dans la liste. Il avait eu un casier judiciaire. Ludivine décida de faire confiance à Boccellini. Il fallait prendre une décision. Avancer. Détailler le profil de tous ces enfants nés dans la maison du mal. Ces enfants du diable. À défaut de tous les rencontrer physiquement pour les juger, pour sentir ce qu'ils dégageaient, Ludivine pouvait tout de même resserrer l'investigation au plus près et peut-être identifier un ou deux noms plus propices à être celui qu'elle recherchait, sans se mettre en danger. Elle était toute proche d'identifier Étoile E. Elle le sentait.